du U, encore du A, sans un 18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour et bienvenue sur Radio U. Vous écoutez votre quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites. Ce soir, on navigue à travers la musique et sur l'océan, puisqu'en deuxième partie d'émission, nous retrouvons un reportage réalisé par Luc et Natacha sur le bateau Persévérance. Et tout de suite, nous accueillons Arnaud Le Gouefleck qui vient nous parler de son dernier album Comme Kafka, qui sortira le 15 novembre prochain. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous êtes musicien, romancier, scénariste de BD et Comme Kafka est votre dernier album.
Absolument.
Et justement, qu'est-ce qu'on y retrouve de Kafka dans cet album?
On y retrouve c'est un disque de chansons, donc c'est des petites chansons qui traitent de sujets existentiels divers et variés, de divers cauchemars, de petites problématiques. Il y a une chanson qui raconte l'histoire d'un monsieur et une dame qui sont coincés dans un ascenseur qui n'arrive jamais à destination. Une autre chanson qui raconte l'histoire d'un monsieur qui travaille à la photocopieuse et qui photocopie tout le temps, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà, des petites histoires un peu inquiétantes.
On l'a dit, vous avez plusieurs casquettes. Et comment votre pratique de l'écriture s'installe dans la pratique de la musique?
Moi, je suis venu à la musique par le rock'n'roll, d'une part, mais c'était pas connecté à l'écriture. Et puis le jour où je me suis rendu compte qu'on pouvait, avec trois accords de rock et un texte versifié, créer une chanson, alors là, ça a été la révolution pour moi. Et donc, je suis venu à la musique comme pratique par l'écriture de chansons.
Comment vous décririez peut-être du coup la dimension narrative qu'on peut retrouver dans l'album?
Dans Comme Kafka, c'est vraiment des petits instantanés. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que chaque chanson présente des personnages. Et parfois, c'est écrit à la première personne du singulier, parfois pas. Et puis, on raconte très vite dans quel pétrin ou dans quelle situation existentielle, donc kafkaïenne, sont placés les personnages. Voilà, c'est une chanson, c'est rapide. C'est un mini-roman en accéléré, on va dire.
Qu'est-ce qui différencie donc ce projet Comme Kafka des anciens albums que vous avez pu faire, comme par exemple L'Orage?
Alors, ce qui différencie fondamentalement ce disque du précédent, c'est que c'est pas la même équipe, tout simplement, et c'est comme souvent le fruit de rencontres. L'album précédent, L'Orage, il avait été lié à la rencontre avec Olivier Mélano, Régis Boulard, Thomas Poli, qui étaient des musiciens qui jouaient dessus avec mon vieux camarade John Trapp. Et là, c'est une toute autre équipe, une rencontre que j'ai faite au Festival Invisible à Brest avec le guitariste bruxellois Moqueux, avec qui on a sympathisé. Ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on devrait faire un disque ensemble. On a des goûts musicaux en commun, des goûts littéraires en commun, ce qui explique pourquoi ça parle de Kafka, c'est parce qu'on parlait que de ça quand on travaillait dessus, donc au bout d'un moment, ça s'est imposé. Et puis, au registre des rencontres, ensuite, Claire Grupalo, qui est une chanteuse à la fois pop et lyrique, donc il y a un spectre assez atypique et assez large. Et c'est vraiment une super chanteuse avec qui je me suis très bien entendu musicalement et humainement, que j'ai rencontré aussi au Festival Invisible, parce qu'elle joue dans un groupe qui s'appelle Bacchante, un groupe de féminin qui vient de sortir d'ailleurs ce mois-ci son deuxième album. Et Thomas Poli, enfin, le troisième larron de l'affaire, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de collaborer sur L'Orage, qui nous a enregistré, qui a apporté aussi sa science du mix et puis un peu d'électronique bizarre, faut bien le dire. Voilà.
Justement, vous avez parlé de tous ces collaborateurs qui ont participé avec vous sur le projet de Comme Kafka. Comment c'est venu l'idée de tous les faire rejoindre et coexister sur cet album?
Ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés avec Moqueux. En fait, le dénominateur commun des trois rencontres, c'est que je les ai toutes faites au Festival Invisible, ce qui est assez amusant, enfin curieux, et en même temps logique, mais pas au même moment. Et c'est petit à petit rencontrer Moqueux, petit à petit se dire que ces chansons-là, il faut les chanter en duo avec, avec une chanteuse, réfléchir à qui pourrait chanter ces chansons-là, etc., etc. Ça s'est fait progressivement, mais c'est le secret d'un, peut-être, je crois maintenant, d'un bon disque, c'est de réunir une équipe où tout le monde travaille dans le même sens et où les choses coulent de source.
Justement, avec ces collaborations, il y a un vrai mélange de la voix, de la guitare, de l'électronique aussi, du coup. Et qu'est-ce que cet assemblage raconte pour vous de cet album ?
Ce qui m'intéresse toujours ce qui m'intéresse le plus dans la musique, c'est que c'est de dérouter un peu et de rechercher une étrangeté. C'est ça qui m'intéresse le plus, d'une manière générale d'ailleurs, pas que dans la musique. Et cette étrangeté, dans cet album, elle me semble provenir de la rencontre entre la guitare de Moqueux, qui est un guitariste complètement à part, hein, qui a une réputation largement méritée de grand guitariste depuis longtemps, dans la scène française et autres. C'est un guitariste qui est influencé par le jazz, et pourtant c'est pas un guitariste de jazz, ce qui déjà est intéressant. Il va chercher son inspiration dans le jazz des années 40, par exemple, mais il n'en fait pas. C'est ça qui est intéressant, qui est un petit peu, qui décale un peu le propos. Et c'est un grand amateur de musique expérimentale. Donc il y a cette espèce de mélange de choses codées désuètes un petit peu, et puis de choses totalement pas désuètes et totalement sur la brèche de maintenant, quoi. Donc ça, c'est déjà une première chose. L'électronique qu'amène Thomas Poli, c'est autre chose. Et puis, comme je parlais du chant de Claire, qui est à la fois lyrique, très classique, et en même temps, c'est quelqu'un qui est biberonné au rock et à la pop, et aussi aux choses un peu expérimentales. Donc tout ça, ça crée un télescopage de moderne et d'ancien qui déroute un peu. Et voilà.
Qu'est-ce que vous avez pu peut-être retirer justement de cette collaboration sur cet album, le fait de travailler avec ces trois musiciens et chanteuses, qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Ce qui est important, c'est que ça se passe bien et qu'il y a plusieurs manières de concevoir le travail en collaboration. Moi, je refuse absolument, je ne cherche pas du tout le rapport de force, et eux non plus. Donc c'est comme ça que je trouve on travaille le mieux quand on doit collaborer avec d'autres artistes. C'est d'essayer de tous travailler à ce que la chanson soit le mieux possible. Donc, le sentiment que j'ai après l'enregistrement et après toute cette expérience, c'est qu'on était fait pour faire ce disque ensemble et qu'on était fait pour travailler ensemble. Et je souhaite qu'on retravaille ensemble, évidemment, dès que l'occasion se présentera.
On va continuer notre interview juste après notre pause musicale avec un extrait de Comme Kafka, le dernier album d'Arnaud Le Goueflec.
Fais comme Kafka, le dos rond et dis-leur ton nom, puis dissimule pour de bon. Comme Kafka, le veston, le chapeau melon, les mandibules, le plastron. Fais comme Kafka, le hanneton ou le faux bourdon, puis libellule, papillon. Sois rassuré, en vérité, oh, tu n'auras pas que des regrets. Comme Kafka, joue au con, au caméléon, un octambule, au crépuscule des néons. Thank you.
D'écouter Comme Kafka, un extrait du dernier album d'Arnaud Le Goëfleck, qui est toujours notre invité dans C'est vous qui le dites. Rebonjour Arnaud.
Rebonjour.
Donc on a parlé tout à l'heure de votre collaboration avec Moque, Claire Groupalo et Thomas Pauly. On a parlé un petit peu de comment vous avez travaillé autour de cette collaboration, mais je voulais vous demander musicalement, qu'est-ce que ça vous a appris, par exemple le travail de l'électronique, qu'est-ce que ça...
Bah, le travail de l'électronique, je connaissais déjà un peu les paramètres de tout ça. Hein. Je m'y adonne moi-même parfois à mes heures perdues. Mais par contre, ce qui m'a sorti de ma zone de confort, c'est le travail sur le chant. Parce que bon, bah, je chante depuis longtemps, mais je suis pas d'abord un chanteur. Je suis d'abord un auteur de chansons qui chante, parce qu'il faut bien chanter ses chansons. Et là, Moque m'a fait beaucoup, beaucoup travailler, avec Thomas d'ailleurs, et Claire aussi. Moi, je me retrouvais souvent face aux trois qui me faisaient refaire des prises que, bon, j'aurais peut-être pas refait si j'avais été seul à la manœuvre. Mais voilà, qui me poussait à questionner la manière de placer certaines syllabes. Enfin, c'est très précis comme travail. Et là, je pense que j'ai progressé sur ce disque en tant que chanteur. Voilà. Et puis, bon, c'est le principe de la collaboration avec d'autres musiciens. Je ne suis pas forcément dans ma zone de confort non plus. Voilà, c'est des mélodies, c'est des gammes, c'est des placements de voix qui ne sont pas forcément... Mon fonds de commerce habituel, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, prendre des risques et de tenter, voilà, de voir qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs dans un autre contexte, en remettant les choses en jeu.
Sur beaucoup de vos projets musicaux, d'ailleurs, vous travaillez avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs. D'où vient cette envie de faire participer d'autres personnes sur ces projets ?
Bah, moi, je suis persuadé qu'on peut faire un certain nombre de choses tout seul, mais on ne peut pas tout faire tout seul non plus. Et on a toujours intérêt à rencontrer d'autres personnes, à se remettre en question, à essayer de voir qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter, ce que vous pouvez leur apporter aussi. Ça, c'est super important. Sinon, je pense qu'il y a un risque de sclérose au bout d'un moment. On peut faire quelques disques comme ça, puis au bout d'un moment, on tourne en rond. Donc moi, j'ai toujours... Essayer d'apprendre des autres et essayer aussi de leur apporter modestement ce que moi je peux leur apporter. Et voilà, je crois que c'est un tempérament collaboratif, on va dire. Il faut être capable aussi de travailler avec les autres, il faut être capable de mettre un peu des fois son ego sous ses pieds, etc.
Dans cet album, il y a plein de styles musicaux qui se côtoient, le rock, la folk, parfois même des choses qui nous amènent vers le western. Pourquoi faire se croiser tous ces styles de musique ?
Bah parce que Moque comme moi, en l'occurrence c'est Moque qui a composé ses chansons, musicalement parlant, c'est vraiment lui qui a la manœuvre, mais on a écouté toutes sortes de musiques dans notre vie. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Alors peut-être qu'au départ, dans la vie, on se concentre sur un style parce qu'on se définit, on définit sa personnalité à travers ce style. Alors on n'écoute que du metal, ou on n'écoute que du funk, ou on n'écoute que etc. Mais il y a un moment, je pense, où on s'ouvre. Et bon, moi j'écoute à la fois, là j'écoute sur la route, en arrivant ici, j'écoutais de la musique industrielle par exemple. Je peux écouter du metal. du black metal, de la musique industrielle, de la chanson des années 30 et du country western dans la même journée, quoi. Et bon, que c'est pareil. Au bout d'un moment, tout ça se mélange et ce qui est intéressant, c'est de faire se rencontrer des genres a priori irréconciliables.
En quoi cette différence de style, justement, elle peut peut-être aussi se retrouver dans les paroles des chansons.
C'est vrai, oui. C'est gentil, je vous écoute.
C'était justement une question.
Ah, une question, pardon. Je réfléchis pas trop en termes de styles musicaux quand j'écris la chanson. En fait, je réagis à la musique sans forcément l'analyser. Et je vois qu'est-ce que ça provoque comme image mentale. Parce que la musique a la faculté, je trouve, de provoquer des images mentales. On écoute une chanson et tout d'un coup, on voit se dérouler les scènes d'un film qu'on invente en même temps, dont on est le propre réalisateur, on va dire. Et c'est une des facultés de la musique de susciter des images. Donc ça m'intéresse. Et à partir de là, ben, j'essaye de réagir à ce que, en l'occurrence, à ce que Moke m'envoyait. Il m'envoyait quelques plans. Enregistrer couplet refrain par exemple musicalement et moi je me disais tiens qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus. Il y a une chanson comme je disais oui, qui place deux personnages dans un ascenseur qui n'arrive jamais à destination, donc ça m'est venu tout de suite. J'ai, en écoutant les accords s'égrener, j'ai vu ces deux personnages dans l'ascenseur. Donc c'est ensuite qu'est-ce qu'on peut raconter par rapport à la musique et après où placer les mots, où placer les syllabes, ce qui est le travail de écriture de chansons qui me préoccupe depuis une trentaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse, le placer rythmique, comment raconter une histoire et la placer rythmiquement.
Oui, il y a une grande différence entre écrire quand on écrit pour la musique et quand on écrit pour, par exemple, des romans.
Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est quand même des histoires, toujours tout ça. On raconte des histoires d'une manière ou d'une autre. Mais la chanson, il y a un plaisir plus immédiat, parce que c'est plus vite fait, de toute façon. Après, il y a des chansons qu'on met des années à faire, c'est vrai, mais globalement, c'est quand même moins long en exécution. C'est comme construire une petite cabane, quoi. Alors que écrire un roman, c'est maçonner une dalle béton et construire un immeuble. Donc ça, c'est un petit peu un autre travail. Mais enfin, au final, ça revient au même, on peut habiter dedans dans les deux, quoi.
Plus que peut-être à travers l'univers musical et littéraire, qu'est-ce qui vous inspire dans le monde qui vous entoure pour produire, que ce soit musicalement ou au niveau de la littérature?
Moi, ce qui m'inspire, c'est les autres artistes, quoi. C'est tout simplement, quand je vais dans un musée ou dans une expo, que je vois le travail d'un plasticien, d'une plasticienne qui me parle, j'ai envie de rentrer chez moi et de faire de la musique, quoi. Si je vais voir un film qui m'émeut, je vais avoir envie de faire quelque chose. Pas forcément un film, mais je vais avoir envie d'écrire une histoire, etc. Quand je lis des livres, donc en fait, c'est pareil quand j'écoute de la musique. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. On apprend à créer. On a envie de créer parce que d'autres ont créé avant nous, qui nous ont donné envie, nous aussi, de participer à ce processus. Et on se nourrit en découvrant ce que font les autres.
Merci beaucoup Arnaud d'être venu dans
Je
le
vous en prie.
studio de
Merci
Radio
à
U
vous.
pour nous présenter votre dernier album Comme Kafka qui sortira le 15 novembre prochain. Et pour ceux qui aimeraient pouvoir assister à une version live de Comme Kafka, Arnaud Le Goueflec sera présent le 23 novembre à la PAM pour le showcase de sortie d'album dans le cadre du Festival Invisible. Merci encore Arnaud.
Avec plaisir, merci à vous.
C'est vous qui le dites, ne s'arrête pas là et on se retrouve pour notre deuxième partie d'émission après la pause musicale.
Build myself in earlier days. I thought I'd breathe easier this way, but now I can't get away. I sewed every piece with a strand. A steady reminder.
C'était Mini Trees avec Cave sur Radio U. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites et on se retrouve dans cette deuxième partie d'émission avec un reportage réalisé par Luc et Natacha. Depuis le 1er octobre, il est possible de voir à la marina du château le voilier Perseverance. Le Perseverance est le nouveau bateau de l'explorateur français, Jean-Louis Etienne, destiné à mener des missions de recherche océanographique. Plus particulièrement, le Perseverance a été conçu pour servir de navire de ravitaillement à une plateforme océanographique nommée PolarPod et dont la mission sera de récolter des données sur l'océan Austral en se laissant dériver autour de l'Antarctique. En attendant que la plateforme PolarPod soit construite, le Perseverance, entre deux missions océanographiques, fait escale dans les ports de France et propose aux écoliers et aux curieux des visites guidées afin de présenter le bateau et ses missions. Tout de suite, un reportage sur le voilier Perseverance réalisé par Luc et Natacha qui ont pu monter à bord du navire lors d'une de ses visites guidées et avec les collégiens de la classe de 6e 1 du collège Pénarcleuse.
Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis le capitaine de Perseverance depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Alors nous sommes à Brest pour effectuer, proposer des visites à des écoliers, à des collégiens, des lycéens, au grand public également.
C'est moi.
Bonjour, moi c'est Marie, je suis matelote à bord de ce bateau et je vais vous faire visiter toute la partie extérieure. Venez par ici.
Perseverance est un des premiers navires océanographiques à voile. Cette dimension d'économie d'énergie vers une transition décarbonée était très importante pour Jean-Louis Etienne. Ça fait partie de l'âme de son projet et évidemment nous attelons à avoir une empreinte carbone la plus faible possible.
Vous voyez combien de voiles sur ce bateau ?
5.
5 en effet.
Ah, on commence à ça.
Et si tu recules un peu, tu verras celles qui sont tout à l'avant. Donc on a deux mâts, on a deux voiles enroulées en avant de chacun des mâts et la grand voile qui est au-dessus de notre tête. Ça fait bien 5.
Perseverance, il faut le voir comme un essai d'un modèle de bateau qui pourrait être décarboné.
Luc Herriot, chef mécanicien à bord du Perseverance.
C'est sûr que c'est un défi en plus, quoi. Ça veut dire des plateformes plus petites, on fera, je pense, jamais un bateau de la taille du pourquoi pas à la voile. Donc évidemment, ça restreint pas mal le champ de possibilités techniques, logistiques, de ce qu'on peut embarquer et tout ça. Mais peut-être d'avoir plus de petites unités qui pourraient marcher à la voile, ça permettrait déjà de faire un petit effort. Des gros bateaux scientifiques, c'est beaucoup de carbone pour aller créer de la donnée scientifique. Je pense que le monde scientifique se dit qu'ils émettent du carbone comme tout le monde et que tout le monde doit réfléchir à ce qu'ils émettent. Donc c'est aussi une réflexion, je sais, dans des grandes institutions qui réfléchissent à comment décarboner un peu plus la recherche. Et après, ça peut avoir un avantage sur le bruit, si jamais, bon, il y a de plus en plus d'études acoustiques, je crois, mais ça, faudrait voir avec des hydroacousticiens ce qu'ils en pensent, mais c'est que c'est une thématique qui est pas mal approchée en ce moment, le paysage sonore dans la mer qui est très très bruyant.
Oui, il y a eu des études qui ont été menées sur l'impact des navires marchands sur leur ligne régulière qui perturbent la vie des cétacés.
Et donc, deux ancres qui font 600 kg chacune. Et derrière, on a deux chaînes qui font entre 160 et 180 mètres de long et qui du coup pèsent un certain poids. C'est pour ça qu'on utilise ce gros appareil qu'on appelle un guindeau, qui est hydraulique lui aussi, pour les mettre à l'eau et les recéder. Eh bien, on va pouvoir aller à l'intérieur maintenant.
L'intérieur.
Grégory Leclou, second capitaine du Perseverance.
L'école de la marine marchande, donc l'ENSM, l'école nationale supérieure maritime, ne forme pas les futurs officiers à naviguer sur des bateaux à voile. C'est en train de changer, évidemment. On parle de retrouver l'ancienne marine marchande à voile. Moi, je suis passé par les lycées maritimes. Donc, il y a une formation qui propose d'être capitaine sur des navires à voile, alors de petite taille, pour devenir skipper.
Bientôt. On est tous là ?
Oui.
Vous m'entendez bien au fond ?
Oui.
Donc là, on est sur le pont principal, c'est là qu'il y a toutes les cabines, passagers, scientifiques, et nous, à l'équipage, on dort un peu plus loin devant. C'est à peu près le même esprit de cabine, simplement, nous, on est tous dans des cabines à deux, donc avec des lits superposés. Équipage, on se partage deux salles de bain, WC, et ici, ils ont tous leur propre WC-douche. Donc on est, je ne sais pas si Greg vous a dit, on est 7 à l'équipage et on peut être 20 maximum sur le bateau. Les cabines, elles ont tout un nom d'explorateur qui a fait un truc un peu classe dans le Grand Nord ou le Grand Sud, à commencer par Jean-Louis, tout là-bas, et ensuite c'est des gens un peu plus âgés que lui qui ont été les premiers à être au pôle Nord, au pôle Sud, à avoir fait des expés plus ou moins réussis, enfin tous ne sont pas revenus, mais voilà, c'est tous des gens célèbres de l'exploration polaire. et on va descendre un pont plus bas pour aller au local science.
Ce qui est intéressant sur Persévérance, c'est qu'on vient de plein de paysages différents, on va dire. Il y a la marine marchande, on est très moteur. Moi, c'est ma formation, par exemple. Donc, moi, j'ai tracé le premier bateau à voile sur lequel je travaille. Mais on a des gens qui ont fait plus de voile. Et donc, c'est un peu un mélange de cultures. On vient de mondes un peu différents. Ça rend le truc intéressant. Et moi, je me cantonne à la partie que je connais. Je suis en machine. Et je laisse la partie voile à des gens qui sont plus pointus là-dedans, quoi. Mais ouais, je pense que ça pourrait apporter, parce qu'il n'y a pas que Persévérance, il y a le transport à la voile qui grandit avec des boîtes, des cargos qui veulent transporter plus de marchandises à la voile. Et je pense que ça va mélanger des cultures, et j'imagine que ça peut faire ressortir des choses intéressantes de ces discussions entre marins qui viennent d'environnements différents, quoi.
Mais vous avez fait combien de kilomètres de Bristol Antarctique ?
Donc c'est loin, hein. Le bateau, il a déjà fait, je crois, 2 tours du monde et demi depuis, en un an et demi. Il a été construit au Vietnam, il est arrivé en France, il est parti au Spitzberg, donc quasiment au pôle Nord. Il est redescendu en Bretagne, il est redescendu au Chili, après il est descendu en péninsule Antarctique, donc c'est plus très très loin du pôle Sud. Il est remonté à Concarneau, on est remonté en Arctique, on est allé à Concarneau, et là on a fait Concarneau-Brest, qui n'est pas la plus grande partie, mais voilà, donc on a fait un paquet de kilomètres. Ouais.
Persévérant. Et le navire de ravitaillement de la future station dérivante PolarPod, qui est le prochain projet de Jean-Louis Etienne. Le projet PolarPod doit étudier le courant circumpolaire qui isole le continent antarctique, l'océan antarctique, des océans Indien, Atlantique et Pacifique Sud. Ça fait une barrière thermique entre le continent antarctique et les zones plus tempérées des océans Atlantique, Indien et Pacifique. Les missions scientifiques seront d'étudier la composition de l'eau, ses caractéristiques de salinité, de température, de dissolution, de CO2, tous ces paramètres qui nous renseignent sur la capacité d'absorption du CO2 et d'isolement de l'Antarctique et de protection du continent antarctique du réchauffement climatique. Alors le PolarPod sera une structure assez particulière, une structure verticale de près de 100 mètres de haut. Il y aura 75 mètres sous la surface qui sera le corps de cette structure et une tour de 25 mètres au-dessus de la surface. La structure est tubulaire pour que les vagues puissent traverser pour offrir le moins de résistance possible. Et au sommet de cette tour, donc d'une centaine de mètres de haut, il y aura une espèce de nacelle, un espace vie composé de au moins 3 ou 4 étages. Il y aura en permanence des scientifiques et des marins. Comme la dérive doit durer au bas mot un an et demi ou deux, voire 3 ans, il est évident que personne ne restera de manière aussi longue à bord du PolarPod, donc il y a un navire ravitailleur qui est prévu, c'est le Persévérance. Tout l'intérêt du PolarPod est d'avoir une station permanente. Un bateau ne pourrait pas rester sur zone pendant plus de un mois ou 2 mois et au-delà. Et l'intérêt aussi est d'être vraiment soumis à la dérive. Un navire ne peut pas se laisser à la dérive comme ceci. Un navire est fait pour avancer. Un navire qui est à la dérive est un navire qui est en danger. Il faut pouvoir avoir de la propulsion pour pouvoir épauler, pour pouvoir pas se laisser embarquer travers à la mer. Donc une station dérivante pour étudier le courant est tout à fait pertinente.
Si le PolarPod se prend une vague dessus, je sais bien qu'il y a un lest, mais ceux qui sont dedans, ils vont quand même être renversés.
Carrément par-dessus. C'est ça, genre que la mer, elle passe comme ça. Ce serait une vague. En fait, ils l'ont étudié avec un modèle de vague qui est déjà hyper costaud, qui est une vague théorique. En fait, c'est des vagues qui sont calculées dans des modèles mathématiques, mais ce n'est pas des vagues qu'on voit très très souvent, quoi. Donc l'eau, elle passera jamais au-dessus. Peut-être qu'elle frappera un peu la nacelle. A priori, ça passera surtout dessus. Là, il y aura 15 ou 20 mètres de hauteur. Une vague de 20 mètres, bon, ça existe, hein, mais ça commence à être quelque chose d'un peu exceptionnel.
Ouais. Est-ce que normalement, c'est prévu que le PolarPod...
Ça, c'est la question qui fâche. Ouais. C'est dans les mains de l'IFREMER qui sera propriétaire du PolarPod. Donc, c'est eux qui ont pris la maîtrise d'ouvrage et tout le suivi de projet à la base de l'idée de Jean-Louis, quoi. Et donc ils sont en discussion avec Pierre You en ce moment pour la construction du PolarPod. et il n'est pas construit, il n'est pas commencé de construire encore. Il est encore en phase d'étude, il faut se dire que c'est un objet qui... Bon, il y a un précédent qui est le flip américain, un peu dans le même concept, mais qui n'était pas conçu pour les mêmes zones. C'est quand même un projet, c'est un prototype, on n'a jamais fait quelque chose comme ça. Donc ça leur prend du temps de réflexion. Et voilà, donc Persévérance existe parce qu'il fallait que Persévérance soit existant pour que l'Ifremer engage la suite du processus. Et donc là, on est dans une, voilà, dans un entre-deux où le bateau existe, mais PolarPod met encore du temps à être conçu.
La structure sera construite en Afrique du Sud, la nacelle sera construite en France et expédiée en Afrique du Sud. Ça sera assemblé en Afrique du Sud, mis à l'eau, de façon horizontale, remorqué vers la zone de début de dérive et ballasté pour se mettre à la verticale. En partant d'Afrique du Sud, il n'y aura pas une grande route à parcourir et on sera assez rapidement dans le courant circumpolaire.
Ça fait partie du projet initial d'avoir un volet pédagogique et donc il y a tout un volet avec un projet PEDA assez conséquent. Je crois qu'il y a quelques milliers d'élèves, entre 10 et 20 000 je crois, qui sont dans un projet pédagogique avec le Polar Podibus notamment, qui est une autre partie qui est complètement à part du... Enfin, pas si à part que ça, mais qui est indépendante un peu du bateau. Donc, il y a un van avec un médiateur scientifique qui sillonne les académies françaises pour parler un peu du projet PolarPod, sensibiliser les enfants à l'océan, à la science, au réchauffement climatique, parce qu'il y a une thématique aussi qui est liée au PolarPod. Et du coup, bah, ça faisait partie du projet aussi de faire venir des élèves à bord pour voir le bateau et avoir un petit aperçu de ce que c'est que le maritime et un petit aperçu du projet PolarPod via Persévérance.
Certains sont plus sensibles à certaines choses. On a beaucoup de questions sur la science, mais on a évidemment beaucoup de questions sur la conduite du navire. Et effectivement, mon équipage comme moi-même, on s'attelle à intéresser les jeunes et à les motiver sur tel ou tel axe d'intérêt, que ce soit la conduite du navire. On leur parle de l'école de la marine marchande ou de la science. On leur décrit un petit peu les parcours et les compétences des scientifiques qui viennent mener des missions à notre bord, et on parle également du côté aventure, et tout ça c'est un tout. Et quand on en intéresse quelques-uns et qu'on voit des yeux briller, on se dit que c'est gagné.
Nous remercions tout particulièrement le commandant et l'équipage du Persévérance d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir permis de monter à bord. Merci à la classe de 6e 1 du collège Pénarcleuse. Nous vous rappelons que le Persévérance appareillera pour la Norvège à partir du 7 novembre, mais que d'ici là, vous pouvez toujours l'apercevoir, le navire à Brest, à la Marina du Château. Merci encore à Arnaud Le Gueflec d'être venu nous présenter son dernier album Comme Kafka, qui sortira le 15 novembre prochain. On rappelle qu'il se produira en concert à la PAM le 23 novembre pour fêter la sortie de son album dans le cadre du Festival Invisible. Entre nous, c'est fini pour ce soir, mais seulement ce soir, car on se retrouve demain, toujours à la même heure, sur Radio Oui. Bonne soirée à toutes et à tous.